Alors, à l'origine, ça fait quelques années, c'était en 2015, j'avais organisé, Pierre Albert déjà participait avec Lenka Stronsky, qui faisait partie de mon petit programme de recherche sur les arts sonores à Paris 1, un festival colloque. En fait, moi, je m'occupais plutôt de la partie académique, disons, et elle plutôt de la partie festival, dont le titre était Boutoum, les mots et les sons. Et dans ce cadre-là, bon, en général, je n'interviens pas nécessairement parce que je suis plutôt du côté de l'organisation. Mais donc on m'avait demandé de faire une petite conférence et c'est précisément celle-là que je vais dont je vais vous rendre compte ce soir. Cette thématique les mots et les sons renvoie en fait à deux réalités. La première, c'est penser la musique. On pense la musique évidemment avec du langage. Évidemment, le propos, même si on a certainement fait des sons, on pourrait dire de la musique, mais on ne peut pas qualifier évidemment avec les termes actuels. Des actions qui ont été faites par nos lointains ancêtres, puisque précisément les mots que nous utilisons aujourd'hui réfèrent à l'histoire, hein, bien évidemment. Donc il s'agit évidemment d'encadrer, de ramener en quelque sorte ce qui est de l'ordre du phénoménal, le phénomène sonore, dans l'entendement, ce qui suppose effectivement l'usage d'un ou de plusieurs langages. La deuxième réalité, c'est que notre langage, nos langages, en tout cas notre langage de communication, les mots que nous utilisons, ceux que j'utilise ce soir, c'est un instrument de programmation, si je peux s'exprimer comme cela, de la musique qui permet de lui assigner une signification, une finalité ou une fonction. Alors on pense évidemment au chant liturgique pour une période assez ancienne et encore actuellement bien sûr, mais le chant lyrique ou l'opéra. Alors on parle d'ailleurs assez souvent de musique à programme parce que il se trouve que les mots ils sont associés à de la musique, mélodie, harmonie, etc. Mais il se trouve que je ne réponds pas très volontiers à ce qui m'apparaît toujours un peu comme une injonction, c'est-à-dire un sujet imposé, hein, notamment dans un appel à projet. Et j'aime bien faire ce qu'on appelle un pas de côté, voire détourner carrément les sujets que je me propose à moi-même de traiter. Sinon, vu la carrière déjà assez longue, je m'ennuie assez rapidement. Et puis j'aime bien un peu surprendre. Bon. Donc il ne faut pas considérer ce que je vais vous raconter ce soir s'inscrit dans une espèce de recherche qui, au long cours, raisonnait. Non, c'est plus quelque chose qui apparaît avec les circonstances. Et là, je me demandais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir leur raconter. Et je me suis souvenu d'un petit fragment des écrits d'Artaud, Antonin Artaud. Alors c'est vraiment un passage très très court dans tous les textes qui ont été rassemblés, qui évoquait une commande qui lui avait été faite par Edgar Varèse d'un livret, et là je vais vous rentrer un peu un peu plus dans le détail, d'un livret pour un opéra que Varèse aurait voulu écrire. Et voici comment c'est présenté par Artaud. Alors, on est en 1932, donc c'est déjà assez ancien. Edgar Varèse donc écrit à Artaud et lui demande de rédiger le livret d'un opéra sur le thème de l'astronome. Et il se trouve que ce projet non seulement n'a rien donné, mais qu'il a même été très très rapidement interrompu. Mais il en reste un scénario que Antonin Artaud a proposé quand même à Edgar Varèse. Et le nom de ce petit scénario, c'est Il n'y a plus de firmament. Donc pour l'astronome, c'était un peu raté. Et vous comprenez que vous verrez évidemment ensuite pourquoi j'ai choisi ce titre un peu étrange, hein. Alors, au firmament fait référence évidemment à la proposition qui était faite par Artaud. Et voici comment il le décrit. Donc moi je me réfère aux œuvres complètes qui sont maintenant disponibles aux éditions Gallimard, qui réunit tout ce que vous pouvez réunir sur Artaud. Alors je vous le lis. Harmonie coupée net. Son brut. Détimbrage des sons. La musique donnera l'impression d'un cataclysme lointain et qui enveloppe la salle, tombant comme d'une hauteur vertigineuse. Des accords s'amorcent dans le ciel et se dégradent, passent d'un extrême à l'autre. Des sons tombent comme de très haut, puis s'arrêtent court et s'étendent en jaillissement, formant des voûtes, des parasols, étages de son. Alors, évidemment, nous n'avons pas trace de la réaction d'Edgar Varèse et pourquoi effectivement ce projet n'a pas connu de suite, mais on peut estimer qu'il y avait là une sorte de rencontre à distance, hein, par courrier, entre deux personnages ayant chacun un caractère assez bien trempé et pas forcément très enclin à se laisser dicter comme cela le type. Alors, en l'occurrence, hein, c'est Artaud qui répond à Edgar Varèse et qui semble lui dicter non pas un livret, mais la musique qu'il souhaiterait lui entendre. Il faut savoir également que c'est un petit peu anecdotique, mais que c'est dans cette période que Artaud avait entamé son cycle de désintoxication et d'internement psychiatrique, et évidemment, il n'était pas forcément non plus lui-même dans un état d'esprit hein, qui l'aurait poussé au compromis. De son côté, Edgar Varèse, vous savez, avait fui l'Europe pour aller aux États-Unis, en Amérique, où il pensait trouver un climat plus favorable à ses idées musicales et à son caractère effectivement un peu entreprenant, pour ne pas dire plus. Donc, cette rencontre n'a finalement jamais tout à fait eu lieu, et à partir donc de cette petite amorce, j'ai imaginé d'autres rencontres qui seraient plus ou moins elles aussi virtuelles. Bien entendu, la description que donne Artaud m'a rappelé également les termes et quelques idées que Yanis Xenakis, quelques propos hein, qu'il donnait quand il parlait de musique. Et comme l'a dit Pierre Albert, il se trouve que j'ai été élève de Yanis Xenakis quand j'ai commencé mes études, il y a fort longtemps, pendant 2 années. Et effectivement, en fait, Xenakis faisait une chose qui était très simple. Nous étions donc à l'université d'art plastique, il n'y avait pas beaucoup de musiciens à l'université d'art plastique, et Xenakis proposait un enseignement de l'équation des cordes vibrantes. Donc il s'agissait d'écrire comment, à partir de l'équation des cordes vibrantes, on en arrivait à la décomposition en série de Fourier, etc. Alors la plupart des étudiants, évidemment, avaient bien des difficultés, ils étaient très habiles avec un pinceau, un crayon, etc., et bien des difficultés à suivre le cours de Xenakis. Mais c'était sa façon, à lui, de repérer ceux qui avaient une toute petite culture scientifique, on va dire un bac plus un petit quelque chose. Et à cela, il proposait effectivement de poursuivre au CNET, Centre national des télécommunications, où était installé le premier prototype de l'UPIC. Voilà, c'est pourquoi j'ai pu effectivement en bénéficier, et puis avoir également évidemment des échanges avec Xenakis, dans lesquels il faisait état justement de sa manière avec laquelle il imaginait, il décrivait hein, le son. J'y reviendrai plus tard. Les étapes de cette pensée d'un son décrit un peu comme le fait Artaud, d'une manière très spatialisée, très parcellaire, comme ça, enfin, comme vraiment des objets ou des particules, hein, il l'avait déjà fait une première expérience, comme nous le savons, sous la houlette du Corbusier pour le pavillon Philips. Alors là, on est en 1958, et Varèse reçoit donc cette commande qu'il va confier à Yanis Xenakis pour le dessin du pavillon. Mais parallèlement, il passe commande à Edgar Varèse d'une pièce de musique qui va être jouée dans ce pavillon. Et comme c'est Philips qui paye la note, c'est le pavillon Philips, d'accord? Et Xenakis imagine un pavillon avec trois pointes. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu au moins des photographies. Le pavillon lui-même, évidemment, a été détruit après l'exposition, avec un très grand nombre de haut-parleurs, très exceptionnels pour l'époque, mais qui devaient également démontrer le savoir-faire de Philips en matière d'électroacoustique. Donc la pièce qui est commandée à Varèse est une pièce électroacoustique qui va être distribuée et spatialisée dans l'espace du pavillon. Ceci étant, Xenakis avait pensé auparavant et avait observé des phénomènes sonores, comme il le raconte hein, dans plusieurs de ses textes, notamment dans Musique Architecture ou dans Formalized Music. C'est d'abord évidemment cette anecdote très, très célèbre de la manifestation à Athènes, avant qu'il soit réfugié donc, en Europe, où il observe en fait une foule en mouvement qui chante ou qui crie des slogans, et il est impressionné par l'effet global produit par ces sons en mouvement et en plus proférés par un grand nombre de sources avec des décalages, avec des effets très très particuliers. Et puis ensuite, c'est l'observation des sons dans la nature, que ce soit les chants des cigales en Provence, que ce soit des bruits de l'eau, de rivière ou de torrent, ou au bord de la mer. On sait que Xenakis aimait le bord de mer. Il allait pagayer en Méditerranée quand il séjournait en Corse, hein. Bon, donc il était. Il y a un lien très fort entre son écoute de la nature et sa pensée, alors on peut dire musicale, mais on peut dire sonore tout simplement, hein. Bon. Le Corbusier, effectivement, je ne vais pas trop m'étendre sur cette partie, je vais tâcher d'avancer un peu, parce que sinon. On va essayer aussi de prendre un peu le temps d'écouter une petite chose et puis de laisser questionner. Donc je vais pas trop insister sur cela, sauf pour dire que bon, Le Corbusier connaissait Edgar Varèse, ça c'est certain. Ensuite, j'ai repensé également à Varèse qui lui aussi s'intéressait à la spatialisation sonore. Et l'une des pièces que nous connaissons et qui était prévue pour être spatialisée, diffusée donc sur quatre canaux, c'est donc Désert. Et cette pièce a été jouée en 1954. Vous voyez, on est toujours un peu dans ce registre-là. Bon, on passe évidemment 20 ans entre la commande d'Artaud et ce cycle-là, en 1954. Je ne sais pas qui a conçu le programme, mais vous savez que la pièce de Varèse, Désert, en fait, qui est une succession de séquences de musique enregistré et non enregistré, donc en direct, était programmé entre la grande ouverture en si bémol majeur de Mozart, il faut le faire, hein, et la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Bref, le public, évidemment, est allé en toute confiance au théâtre des Champs-Élysées. Et ce qui a donné un assez grand scandale, ce que nous savons, c'est que Xenakis aurait voulu aller assister à ce concert, mais que, en fait, il a préféré écouter sa retransmission radiophonique qui était donnée en direct et pour la première fois en stéréophonie. De manière à, et là je cite Xenakis, j'étais resté dans ma chambre d'hôtel pour pouvoir enregistrer la retransmission à la radio. Et il ajoute, grand scandale pour Varèse, les gens se sont battus. Et qui est venu me rendre visite le lendemain dans ma chambre d'hôtel. Je lui ai fait entendre l'enregistrement. Alors c'est l'enregistrement, je pense, que Pierre Bihr possède en disque vinyle, j'imagine. Ah oui, absolument, oui. Et avec les cris, les protestations. Ceci étant, Pierre-Henri mettait toujours les potentiomètres à fond. De toute manière, c'était compris dans le service. À tel point qu'au GRM, discrètement une reprise, un taquet pour empêcher que ce soit trop fort, que ça aille à saturation. Mais de toute façon, Pierre-Henri, quand il jouait ses pièces, il commençait, bon, normal, et puis au fur et à mesure, évidemment. Voilà. Alors, j'ai repris quelques comptes rendus hein, de journaux de l'époque qui rapportent que les gens aboyaient, imitaient les sons de manière caricaturale et dans un des comptes rendus, il y avait justement cette qualification fanfare de chasse d'eau et de stock-car. Voilà donc la raison, j'ai élucidé au moins le titre de ce petit papier. Donc, à ce stade-là, je vais avancer encore un peu plus. Donc, sachant maintenant que Xenakis avait connaissance de l'œuvre de Varèse, et notamment donc par cet enregistrement qu'il avait lui-même effectué. Sachant que Varèse avait pensé le son spatialisé, avec évidemment la technologie de l'époque. Hein. Doutez que tout cela était assez éloigné de ce que nous pourrions aujourd'hui, de ce qu'ils, eux, pourraient faire. Et sachant donc, comme j'ai dit, que Xenakis s'est lui-même inspiré de phénomènes sonores engendrés par des sources multiples, distribuées dans l'espace et en mouvement, donc les manifestants à Athènes, les cigales, etc., soit des artefacts, soit des phénomènes naturels, et cela donc est reporté par Olivier Revaud-Allonnes. Alors c'est pareil, il y a les références dans le texte, c'est pour ça que ça peut être intéressant, évidemment, parce que j'ai noté, évidemment, ces différentes références. En l'occurrence, Sacerto, et dire le vaut d'Alain, ça va être un peu plus loin. C'est un très beau catalogue d'ailleurs sur les. Et puis c'est un incunable en plus, hein, je ne peux pas l'avouer. Xenakis, les Polytopes, ça a été édité par Balan à Paris en 1975. Et donc, Olivier Revaud-Allonne fait une description des polytopes, notamment celui de Cluny, que personnellement j'ai eu la chance de, enfin, auquel j'ai eu la chance d'assister. Effectivement, il y avait là une véritable tentative, et je ne pouvais que faire ce rapprochement entre les trois, entre Artaud qui disait le son, et qui ne le disait pas seulement à cette occasion, puisque on retrouve à peu près dans les mêmes termes les descriptions qu'il faisait, qu'il a fait dans un texte qui est Héliogabale ou l'anarchiste couronné, dans lequel il décrit les cérémonies au temple d'Hémès. Hein, et c'est un tout petit texte, mais c'est assez étonnant de retrouver effectivement les mêmes termes. Hein, et je vous donnerai un tout petit passage. À quoi ça m'a fait penser tout ça? Je me suis dit, bon, ils ne se sont pas véritablement rencontrés, ils se sont frôlés, on va dire. Ils se sont frôlés, ben, ça m'a fait penser en fait à Le Verrier, un mathématicien, astronome du XVIIIe siècle, qui faisait des calculs pour prévoir les conjonctions, le mouvement des planètes, etc. Et je me suis imaginé ces trois créateurs, ces trois artistes, ces musiciens, poètes, comme des corps célestes. Et Verrier était très ennuyé parce qu'il utilisait les abacs car les calculs étaient extrêmement fastidieux, très longs, et ça ne tombait pas juste. Ça ne tombait pas juste. Et il a eu cette idée qu'un corps qu'on ne percevait pas devait interagir avec les deux corps qu'il étudiait. Et effectivement, alors c'est très très loin, hein, je ne pourrais pas vous donner plus de précisions, mais j'ai imaginé effectivement une influence à caractère un peu mystérieux entre ces trois êtres, comme trois corps qui se seraient influencés comme ça, un peu par une sorte de... Voilà, de quelque chose qu'on n'expliquera pas, hein, de toute manière. Mais c'est ces conjonctions dans les descriptions, dans les termes, qui m'a donné donc cette idée-là. Alors, j'ai essayé, pour finir, de... d'en revenir à chacun. Edgar Varèse, c'est véritablement un musicien et très très... enfin, c'est pas quelqu'un qui papillonnait du tout. Mais il proposait des correspondances souvent symboliques, à caractère symbolique ou métaphorique, avec la géométrie descriptive des phénomènes, des formations physiques, Et notamment, il s'intéressait beaucoup à la cristallographie. Varèse n'était en mesure que d'esquisser ses idées musicales en matière de spatialisation. Ce qui a fait scandale, c'est évidemment pas le caractère spatialisé ou un peu immersif dans le théâtre des Champs-Élysées, mais par contre, ses affinités étaient clairement désignées par Antonin Artaud. Et là, effectivement, je fais référence à nouveau donc à Artaud, qui décrit des lumières, des sons ont l'air de fondre. C'est quoi des sons qui fondent? Hein, on imagine assez difficilement. Ces fils grossissent et s'écrasent comme des fruits à queue qui s'aplatiraient au sol. Et là, il s'agit effectivement de fragments que l'on retrouvera dans l'anarchiste ou Héliogabale ou l'anarchiste couronné. Il décrit encore des sons et des lumières qui sont traités et distribués ensemble dans des espaces, des cavités, contre un sol ou l'angle de deux murs. On peut évidemment passer maintenant, revenir plus exactement à Xenakis, 10 années donc après le pavillon Philips. Il a créé les polytopes, qu'il qualifiait lui-même de spectacle lumineux avec musique. Alors, il faut savoir que le Xenakis et le Corbusier ne se sont jamais très très bien entendus. Le Corbusier, de toute façon, considérait tous les gens qui travaillaient avec lui comme des collaborateurs. Il avait enfin, disons qu'il signait tout, et c'est d'ailleurs ce qui a provoqué la rupture avec Xenakis après donc le pavillon Philips. En 1959, Xenakis a obtenu que son nom soit mentionné pour cette réalisation, et ça a agacé le Corbusier. Et puis, tant qu'à faire, il n'a pas viré que Xenakis, il a viré toute son équipe d'un coup. Comme ça, il était tranquille et pouvait poursuivre son grand œuvre en n'étant pas agacé par d'autres créateurs que lui. Et donc, oui, c'était. Alors, et Xenakis, évidemment, a dû avoir quand même cela. Ça a dû lui rester en tête. Il y avait aussi quelque chose qu'il n'avait pas très très bien, enfin qui ne correspondait pas à ses idées, c'était l'idée de la synchronisation. Parce que le Corbusier avait prévu en fait des projections d'images, de diapositives, alors que Xenakis va choisir pour les polytopes pas d'images, mais des flashs électroniques, et des lasers, et des miroirs. Et ce qui va être mis en mouvement, c'est justement ces projecteurs de lumière colorée, de lasers, qui étaient commandés par un programme qui réalisait effectivement les mouvements et les figures voulues par lui, tandis que la musique, qui était elle-même spatialisée, mais très grossièrement encore spatialisée, était diffusée par contre par de multiples sources. Là, par contre, il y avait beaucoup de haut-parleurs. Alors, le tout permettait d'obtenir cet effet d'immersion. Et ce qu'il faut savoir, Alors là, je cite hein, Olivier Revaud-Dallone. Donc, s'agissant donc de ces polytopes, analyser et reconstruire les 1000 événements moléculaires qui font la rivière. Faire comprendre et faire voir tout à la fois cette multiplicité infinie, douée d'un sens global, provoquer enfin les perceptions sensibles, tout uniment baignées d'intelligibilité simple mais totale. Voilà sa tâche. Bon, c'est un peu emphatique, c'est du Revaud-Dallone, c'est normal. Mais j'ai réfléchi. Plutôt, j'essayais de me ressouvenir de l'expérience que j'ai vécue et pourquoi cela fonctionnait. Car les sons n'étaient pas en mouvement. En fait, il y avait une machine à, je ne sais plus, 8, je crois il y avait deux machines qui étaient couplées à 8 voix, mais il y avait deux canaux qui contenaient le programme de commande des lumières. Donc il n'y en avait plus que 6. Donc ça ne faisait pas une spatialisation très. Qu'on aurait pu rendre précise. Ce qui se passe, et évidemment, ce sont les travaux en psychophysiologie de la perception qui permettent de le comprendre, c'est le même effet que celui qui se produit au cinéma lorsque vous avez classiquement un dialogue entre deux individus, dans le cinéma de papa, hein, celui que peut-être certains d'entre vous ont connu, il y avait un haut-parleur unique au milieu, d'accord? Et en regardant le film, on voyait bien les personnes qui se parlaient, hein, qui avaient un dialogue, et on percevait bien le son comme émis à gauche et à droite. Par chacun, alors qu'il y avait une seule source sonore. Et en effet, cela fonctionne car nous possédons dans le circuit qui va de notre tympan jusqu'au centre auditif un certain nombre de centres sous-corticaux, dont un, le colliculus, colliculus inférieur, colliculus supérieur, contient des cellules, des neurones, qui sont sensibles à la fois au son et à des données visuelles. En gros, il y a des voix qui arrivent par la voie auditive, par donc l'oreille interne. Et il y a également des fibres qui arrivent du canal visuel. Et dans ce colliculus, il se construit une topographie du monde perçu. Et c'est parce qu'il y a cette conjonction que nous percevons les sources. Là où nous les percevons auditivement, là où nous les percevons visuellement. D'où cet effet. Bon, il faut dire aussi que, je ne sais pas si peut-être certains ont connu les polytopes à Cluny, c'était assez particulier. Hein. Ça durait environ un peu plus de 30 minutes. Il y avait pas les fauteuils comme ici, c'était des tapis et nous étions censés, mais à l'époque évidemment en post-68 ça posait pas de difficultés, donc nous laisser aller sur les tapis, c'était une expérience sensorielle, je dirais même multisensorielle. Il n'y avait pas que le son et l'image. Il y avait aussi quelques émanations, n'est-ce pas, de divers produits. On était quand même dans une époque un peu particulière encore. Et je me souviens que c'est rapporté d'ailleurs par Olivier Revaud-Dallone, que les gens sortaient un peu étourdis quand même, hein, parce que le son était extrêmement fort. Xenakis, comme Pierre-Henry, aimait le son très fort. C'était jamais assez fort. Xenakis a essayé d'enregistrer le son d'une fusée au décollage. Il a détruit quelques microphones, et puis après, il a fini par trouver la bonne distance. Enfin, vous voyez, bon. Et donc, on était évidemment un peu étourdis, et Revaud d'Allonne rapporte que certaines personnes disaient ben, moi, je suis aveuglé, et puis l'autre disait ben, moi, je suis sourd. Bon, donc, on pouvait être aussi aveuglé et assourdi au bout d'une demi-heure. Voilà. Bon, alors, je vais m'arrêter là et je vais vous proposer de faire une petite écoute de 5 minutes, non pas de Xenakis ou de Varèse, qui sont des œuvres bien connues, mais d'une œuvre bien moins connue qui a été composée à l'Upique. Justement, cette première machine, ce prototype sur lequel moi aussi j'ai pu m'exercer, mais je ne suis pas musicien et j'en ai pas sorti grand-chose, puis c'est trop compliqué, ça tombait tout le temps en panne, il fallait appeler l'informaticien pour relancer la machine, enfin bref, ça m'énervait. Moi j'ai travaillé de façon beaucoup plus sauvage. Et en direct, en fait, j'avais un certain goût pour la performance, beaucoup plus que pour la composition, même en studio traditionnel. Ça ne fonctionnait pas très très bien. Alors, il s'agit donc d'une pièce de quelqu'un qui a aussi travaillé, qui a étudié avec Xenakis, qui a travaillé donc avec Xenakis. C'est Philippe Jubard, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Alors lui, par contre, il est musicien. Il a beaucoup travaillé également, alors avec quelqu'un qui a beaucoup fréquenté le GRM et notamment Pierre Schaeffer, qui est André Almuro. Et tout ça, bon, c'était, on va dire, dans cette période, hein, fin des années 70, début des années 80, pour ce qui me concerne. Une période où il y avait quand même beaucoup d'effervescence dans les studios de musique électroacoustique et de musique, on va dire, électronique, hein, pour ce qui est de l'Upique. Donc cette petite pièce s'appelle Cristal, elle a été composée en 1981, donc moi c'est à peu près à cette période-là que j'ai tenté maladroitement d'utiliser l'Upique. Et voilà. Donc, je ne sais pas si. Voilà. Merci. Choisi cette musique pour plusieurs raisons. D'abord parce que elle rappelle un peu dans son matériau l'une de celles que Xenakis avait utilisées justement pour les polytopes. Deuxièmement parce qu'elle a été faite à l'upic, effectivement, et on reconnaît très bien, c'est assez caractéristique, hein, l'upic à l'époque était une machine qui restait assez pauvre hein, du point de vue de ses possibilités sonores. Trois, parce que la pièce a été d'abord donnée à l'été 81 à l'abbaye de Beaulieu dans une soirée dédiée à Antonin Artaud. C'est purement pour moi, c'est des jeux de mots, hein, mais ça, c'est nous qui lui donnons un sens. Hein, à Artaud avec donc des œuvres d'André Almureau, de Philippe Jubard et quelques autres. Voyez, donc bon, moi ça m'amuse de faire ce genre de choses. Sachons que aujourd'hui, on pourrait peut-être, on saurait peut-être. Je suis assez régulièrement, j'ai un de mes anciens étudiants qui est devenu maintenant le directeur du GRN. Mes étudiants sont plus doués que moi. Et alors, donc je suis un peu ces concerts, et c'est vrai que la machinerie actuelle du GRN est quand même assez très très puissante. Et notamment, l'un des derniers concerts auxquels j'ai assisté, il y avait une pièce de quelqu'un qui s'appelle Roland Cahen, peut-être, hein, Pierre bien connaît, et qui s'appelle précisément Kinetic Design. Et c'est tout récent, hein, 2019, le programme, donc c'était le 20 janvier 2019. Donc là, par contre, j'aurais pas pu le dire en 2015. Et donc, ça rejoint évidemment aussi quelques idées de François Bayle sur la projection sonore, etc. Effectivement, on pourrait imaginer cela, on pourrait le faire, on pourrait approcher. Avec l'holophonie, on pourrait également imaginer de le faire. Eh bien, ma conclusion personnelle et ce à quoi je m'en tiens, c'est ce que j'imagine à la lecture d'Artaud ou de ce qu'imagine Xenakis et que je n'ai pas encore entendu. Là, ce que nous avons, c'est comme si on avait fait un petit Polaroid, une photographie, vous voyez, du phénomène. Il reste à imaginer le phénomène, à le rêver d'une certaine manière. Hein, vraiment, toute dernière phrase, et c'est à nouveau, je termine avec Artaud. Une musique extrêmement appuyée, anonnante et fragile, où l'on semble broyer les métaux les plus précieux, où se déchaînent, comme à l'état naturel, des sources d'eau, des marches agrandies de kyrielles d'insectes à à travers les plantes, où l'on croit voir capter le bruit même de la lumière, où les bruits des solitudes épaisses semblent se réduire en vol de cristaux. Vous voyez ? Alors, j'attends encore la musique qui me restituera, enfin qui amènera cela dans l'ordre du sensible. Voilà, je vous remercie.